RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Alors ce Love Test, c'est Ornella Fleury et Camille Emmanuel et moi-même qui allons répondre à une question, à une carte en tout cas qu'a tiré Franck Spengler. Vous commencez par qui, Franck?
Ah bah parce qu'elle est comédienne, je commence vraiment par Ornella. Ornella, inventer une histoire pour larguer quelqu'un en incluant les trois mots suivants, livret scolaire, lubrifiant, portefeuille. C'est une question pour une comédienne, ça.
Ok, pour larguer quelqu'un.
Ouais. Ça fait ligue française d'improvisation, ça.
Ouais, vraiment, c'est clair. Non, alors écoute, je suis vraiment désolée parce que j'ai eu un problème. En fait, j'ai renversé mon lubrifiant qui était dans mon sac, donc il s'est renversé sur mon portefeuille. Du coup, je peux pas venir parce qu'en plus, il y avait le livret scolaire de mon neveu à l'intérieur. J'ai vraiment tout saccagé. Et du coup, je m'en veux tellement que j'ai vraiment besoin de vivre seule pendant quelques temps. Donc voilà, je vais... Donc je vais avoir besoin de temps, vraiment. J'espère que tu comprends la culpabilité. C'est ça, voilà.
C'est pas mal.
C'est même très très bien.
C'est très bien.
Je reconnais que le lubrifiant dans le sac...
Tu vois, s'il se renverse, on est... Voilà.
On n'est pas bien.
On n'est pas bien.
Surtout un lubrifiant anal. Carrément très très mal.
Alors pour Camille, quelle est votre dernière crise de jalousie et quelles en étaient les raisons?
Alors ça c'est une bonne question.
Vous ne devez pas être très jaloux.
Mais je suis embêtée parce que et puis ça fait la fiche. Non, moi je suis pas jalouse. Non mais
en fait, c'est vrai. J'ai une autre question sur la carte. Je vous en
d'accord,
pose une
d'accord.
autre.
D'accord, ouais, parce que
avez-vous déjà été surprise en l'occurrence là, en plein ébat?
Est-ce que j'ai déjà été surprise en plein ébat?
Un parent, un voyeur, un conjoint, un amant?
Non, ça m'est jamais arrivé. Par contre, ça m'est déjà arrivé d'avoir peur d'être surprise. Et notamment, on parlait de situation de belle-mère, de tout ça. Oui. Je trouve qu'il y a toujours un moment assez bizarre, c'est de baiser chez les parents du conjoint. Enfin voilà, et notamment mon conjoint, il y a toujours la même chambre. D'ado depuis qu'il a 12 ans quoi, et les parents ont pas vraiment changé la déco. Du coup je me retrouve au milieu de trucs genre de Marvel, de machin, de
posters,
ce qui est pas le truc le plus érotique du monde, et de ses BD quand il avait 12 ans, et avec ce truc de on reste quelques temps et tout, donc au bout d'un moment on a quand même envie d'avoir une vie sexuelle, enfin on a envie l'un de l'autre. Et du coup, ce truc, retrouver un émoi adolescent de « faut pas que les parents nous entendent ». Et dans un petit lit d'ado, enfin dans un truc, voilà, avec la couette Superman. Et
ça, donc, c'est excitant.
C'est plutôt excitant, Et c'est une peur, parce que voilà, on n'a pas envie que ses beaux-parents, après au petit-déj, fassent une remarque ou soient gênés. Mais avec une excitation qui rappelle l'excitation de quand on est ado, quoi.
Voilà. En utilisant le sabre laser comme
le Star Wars.
Alors, ma pauvre Gide, c'est sur vous que ça va tomber.
Ma pauvre, pourquoi pas.
Quelle est votre dernière crise de jalousie et quelles en étaient les raisons?
Vous avez pas pris une troisième carte?
Pardon. Réinventer. Je croyais qu'il fallait absolument répondre à la question. Réinventer. Ça, c'est vous amuser. Réinventer le refrain de Goldman, Je te donne, en version coquine.
D'accord, je chante très très mal, en plus ça va être très très drôle. Alors on va le faire en parler, peut-être, en version coquine. Si tu veux que je te donne, il faut que tu me prennes. Et si tu me prends, alors à ce moment-là, je vais te redonner, et encore te redonner. Bon.
J'essaye de la chanter, ça va pas trop bien.
Ça va pas du tout.
Ça va trop bien.
Ben non, je suis d'accord, mais
Non, allez, on vous l'accorde. Et alors, c'est à moi de répondre à une question.
Voilà. C'est très simple. Quel est l'endroit insolite où vous avez fait le plus insolite où vous avez fait l'amour, Franck Spengler?
Alors, sans hésiter, quand elle existe encore, à la terrasse de la Samaritaine.
Ah oui.
Vous savez, la très belle terrasse et tout.
On trouve tout à la Samaritaine.
Le plus drôle, c'était avec du monde.
Ah, il y avait du monde.
Ah oui, il y avait du monde sur cette terrasse.
Ah, je croyais que t'étais avec du monde. Enfin, tu vois, que t'avais fait
tout.
Oui, voilà, je me suis dit peut-être.
Non, j'étais avec une chérie et tout. On avait très très envie de faire l'amour et c'était une chérie plutôt très très exhibitionniste. Mmh. Et donc l'idée c'était qu'elle s'était mise contre la rambarde qui est face au pont neuf, là-haut, tout là-haut. Et moi j'étais arrivé derrière, j'avais juste sorti mon sexe et hop, j'étais glissé.
Donc vous avez vu?
Bah, non, parce qu'on a été relativement discret, on n'était pas là en faisant des grands hein, on le faisait un peu discreto, c'est un peu à la voleuse, quoi. Mais du coup, on a quand même fait l'amour sur cette rambarde,
avec
des gens autour, ouais. Une vue magnifique et tout. En plus, ça, c'est le Pont Neuf, c'est un des plus beaux ponts de Paris, enfin voilà.
Ouais, pas donné à tout le monde.
Ça, non, mais ça, je reconnais que c'est pas mal. Ouais. C'est pas mal.
Ouais, j'ai été aidé par la question, hein, parce qu'il y en a d'autres, des fois, il a fallu chanter.
bah oui, bon. Hein, c'est le principe du jeu, on tire une carte. Et puis on va écouter Sophie qui voulait faire un trio avec son conjoint et une autre femme. Et puis tout de suite, nous écoutons Jacques, dont la sexualité était assez débridée, qui nous avait demandé à Michel Bonhomme et moi-même comment aider sa femme à être également plus libérée sexuellement.
RMC. Vous aimiez les femmes avant ? Vous allez les adorer.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel.
Bonjour.
Donc vous avez une sexualité assez débridée, Jacques.
Tout à fait, si on peut appeler ça comme ça, mais depuis quelques temps simplement. Il s'avère que moi je suis en couple avec mon ami depuis une quinzaine d'années. Et jusqu'à là, c'est vrai qu'on a vu une sexualité, disons, assez classique. Assez ouais. Classique, comme tout le monde peut avoir, je pense. Jusqu'à il y a quelques années, où on a commencé à ressentir un petit peu une perte de désir l'un pour l'autre, une perte de libido. Sous les conseils, je dirais, les recommandations de mon ami, on a commencé à faire quelques jeux intimes, quelques jeux sexuels, qui a vraiment relancé notre libido et redonné un sens, je dirais, à notre vie de couple.
Oui, c'est ça. Donc vous prouvez bien que en vous amusant, enfin, vous avez réussi à dépasser cette lassitude qui était en train de s'installer.
Exactement, mais je pense que c'est une lassitude de ma part, parce que je suis quelqu'un, moi, d'assez, je dirais, assez classique, assez réservé dans la vie, et je ne m'attendais vraiment pas à faire ce genre de choses, et en fin de compte, c'est quelque chose qui est très plaisant.
Mais alors, quelle est la dynamique de vos jeux? Parce que pour pouvoir jouer, il faut oser quelque part, il faut aller un petit peu plus loin que ce que l'on vit d'habitude.
Exactement. C'est faire de nouvelles expériences, de nouvelles rencontres également, pour ma part. Mmh. Essayer de sortir dans des endroits un petit peu insolites, faire des choses, enfin avoir des rapports plus insolites, je dirais.
Tout à fait.
Mmh. Qu'est-ce que vous appelez par des rapports un peu plus insolites? Moi, je veux tout savoir. C'est quoi?
Ah, je sais que vous voulez tout savoir.
Oui, j'ai...
Je dirais utiliser différents sextoys, différents instruments, des huiles de massage, voilà, des ingrédients également. Voilà, ça peut être des fraises, de la chantilly, des choses comme ça.
D'accord.
Ça, des choses assez fun.
Voilà, mais au-delà des instruments, est-ce que c'est une petite dose de voyeurisme, d'exhibitionnisme, un petit peu de sadomasochisme?
Comment? Pour ma part, tout à fait. Moi, j'ai toujours été très très exhibe, si on peut dire. Mmh. Le fait de pouvoir être vu, de voir les autres, m'accompagne beaucoup moins. Donc c'est là qu'on disait qu'il fallait se forcer un petit peu. C'était un petit peu comme vous parliez d'un match de rugby. Vraiment la forcer à faire de nouvelles expériences. Voilà, c'est quelque chose qu'elle a vraiment très apprécié, dont ça m'a fait friand aujourd'hui.
Non, mais ce qui est bien dans votre couple, c'est que ensemble, tout d'un coup, vous êtes dit bon, bah, il faut qu'on fasse quelque chose, et puis vous avez réfléchi ensemble, vous avez communiqué. On n'avait
pas trop le choix, parce que comme je vous disais, vraiment, ça commençait à plus aller, c'était vraiment trop rébarbatif, je pourrais dire. Et le fait justement de faire de nouvelles expériences, bah, ça nous a vraiment relancé notre vie sexuelle.
Voilà, mais vous avez été capable d'en parler, de vous dévoiler un petit peu plus sur vos désirs, sur ce qui poussait, enfin, j'imagine.
Bah, je veux dire, au début, pas forcément en parler, mmh. parce qu'il y avait une sorte de timidité de ma part, une sorte de gêne. C'est plutôt elle qui a été à l'initiative de ça, voilà.
Ah oui,
voilà, c'est plutôt elle, je dirais. Je ressentais de toute façon une perte de désir mutuel, dans tous les cas, on le ressentait. Et un jour, c'est elle qui un jour est venue avec différents sextoys, etc., en me disant, voilà, on va essayer ça. Et là, voilà, c'est reparti comme en 40, comme on dit.
Elle a apporté les outils, et puis, comme vous êtes un bon artisan, vous avez mis la main à la pâte.
Exactement.
mais vous savez, Jacques, l'important, c'est qu'il y en ait au moins un des deux qui ait de l'imagination et qui décide de prendre les choses en main. Si c'est pas nécessaire que les deux soient pleins d'idées.
Mais faut aussi se forcer un petit peu parfois.
Et puis après, ben, il faut que l'autre accepte de suivre, évidemment. Hein.
Mais... Ah, c'est la découverte dans un premier temps, mais une fois que les deux apprécient, je dirais, il n'y a plus aucune, il n'y a plus aucune gêne ni honte. Voilà.
Une fois que
du plaisir.
Une fois que les dés sont lancés, il n'y a plus de problème, ça c'est sûr.
Mais il faut sortir de la passivité, hein. Donc c'est-à-dire que cette forme d'agressivité, d'aller vers, hein, pour faire bouger la dynamique du couple, sinon ça s'endort obligatoirement.
Mais Michel Bonhomme, comment on fait quand les deux sont assez passifs? Ça doit être très compliqué de réveiller un couple où les deux partenaires sont passifs.
Ah ben, lorsque les deux partenaires sont passifs, hein, je crois qu'enfin, en tout cas, moi, dans la thérapie de couple, c'est de commencer à développer, à les libérer son imaginaire, et à travers l'imagination qui devient forcément à un moment donné érotique, c'est de pouvoir après jouer, commencer à partager ses fantasmes, avoir de la complicité, faire des rendez-vous sexuels où on va mettre en place un scénario, et voilà. Sinon, ben, le couple souffre, et entre prendre conscience, ben, que le couple va pas très bien, il faut forcément se bouger à un moment donné, mais avoir quelques clés pour ça.
Il faut leur faire un cahier d'exercices.
Première
semaine, on fait ça. Deuxième semaine, on fait ça.
Il y a un petit peu de ça, et on se retrouve un mois après.
Merci Jacques, en tout cas, de votre appel. On continue avec Sophie, qui est avec nous. Bonjour Sophie.
Bonjour Brigitte, bonjour Michel.
Bonjour.
Je vous appelle en fait pour avoir un petit renseignement. Je suis en couple depuis longtemps avec mon mari. Hein,
oui.
Et on a des enfants, voilà, une vie normale. On aime beaucoup jouer avec des jeux. Mmh. On a une vie sexuelle épanouie. Et depuis quelques temps, avec mon mari, on se pose la question. Enfin, on aimerait bien, mais on n'ose pas franchir le pas. On aimerait bien avoir un petit fantasme à trois avec une autre femme. Et en fait, on a peur. Enfin, on ne sait pas si on doit le faire, si ça doit rester un fantasme, ou parce qu'on est bien tous les deux. Mais je sais pas. On a envie tous les deux. On a envie d'aller avec quelqu'un, quoi, de voir un petit peu.
En tout cas, vous semblez être un couple assez libéré, qui fonctionne bien, et, et vous semblez être d'accord sur la même idée.
Oui, on est d'accord sur la même idée. Mais alors quand on en discute, hein, en fait, on se dit, bon, est-ce que c'est un fantasme qu'on doit réaliser, ou alors est-ce qu'on doit le garder pour nous, ce fantasme-là, quoi. En fait, on n'arrive pas à franchir le cap.
La grande question, Michel Bonhomme.
C'est la grande question, hein, mettre en acte ces fantasmes. En tout cas, il faut que le couple discute, soit prudent, hein, mettre un petit peu des garde-fous. Aucun des deux partenaires ne se sente obligé à faire quoi que ce soit. Hein. Faut qu'il y ait vraiment une complicité. Mais on pourrait dire, pourquoi pas? Mais il y a des couples, pour des couples, c'est dangereux. Pour d'autres, ben, ça va même dynamiser leur relation. Et le paradoxe, hein, c'est que dans l'excitation qui suit pour certains couples, ben, ça va même ranimer le lien amoureux, le désir de proximité, et pour d'autres, ça va être dangereux. Voilà, il n'y a pas de règle.
Mais Sophie, vous imaginez votre mari faisant l'amour avec cette autre femme?
Oui et non.
C'est souvent cet angle-là qu'il faut voir, si on appuie, si ça fait mal. Moi, ce que je vous conseillerais dans votre cas, au fond, c'est d'aller tous les deux dans un club, et puis vous allez flirter avec une femme dans un club, et ça va déjà nourrir bien ce fantasme-là, sans aller trop loin.
Ah voilà. D'accord.
Voilà, en tout cas, c'est...
Parce que au départ, en fait, nous, ce qu'on pensait, enfin voilà, on imagine des choses, on pensait en fait faire appel à une call girl, quoi, en fait, quoi, pour pouvoir.
Oh là là, vous amèneriez le loup dans la bergerie, là.
C'est ça.
Là, c'est un petit peu violent. Hein. Directement, je pense que l'idée de Brigitte de pouvoir apprivoiser et voir qu'est-ce qui se passe dans un lieu où il y a une certaine liberté, et de voir ce que ça fait, comment vous réagissez, parce que la jalousie, elle peut vraiment vous submerger aussi. Voilà, faut être prudent, progressivement, et voir, expérimenter.
D'accord.
D'autant que la call girl, pour une femme comme vous, entre guillemets normale, ça peut être une rivale très dangereuse.
D'accord, oui, voilà.
Donc, je ne suis pas sûre que ce soit la meilleure idée. Hein. Non, je crois que c'est mieux d'aller dans un club et vous allez vous amuser avec une femme. Ça, c'est très classique dans les clubs. Hein. Il y a beaucoup de femmes qui sont un peu bi. Et puis, vous verrez bien ce que vous avez envie de faire avec. Votre mari, s'il va l'embrasser, que déjà ça vous titille et que ça vous gêne, ben vous dites stop, et puis ça n'ira pas trop loin.
Voilà, d'accord.
Soit ça crée un stress, soit ça crée de l'excitation. Hein. C'est vraiment binaire, hein, au niveau de la réaction.
Bon, ça sera coup double alors.
Voilà.
Merci Sophie, en tout cas.
Bon. Merci beaucoup, merci pour votre émission.
Je vous en prie.
Merci, au revoir.
On retrouve Rose. Bonjour Rose.
Oui, bonjour Brigitte, bonjour Michel. Moi, je vous appelle parce que donc ça fait 5 ans que je suis en couple.
Vous avez 37 ans, hein, pour situer.
37 ans, mm-hmm. Voilà. Et donc, entre-temps, on a eu 2 enfants. Mm-hmm. Et mon souci, c'est que mon mari ne me montre pas qu'il a envie de moi. Donc voilà, on peut rester 6 mois, voire peut-être 1 an sans faire l'amour. Si je ne viens pas vers lui, il ne vient pas vers moi.
Et oui. C'est comme ça depuis toujours ou depuis que vous êtes mère?
Depuis que je suis enceinte.
C'est ça, hein, oui.
Mm-hmm. Alors là, c'est vraiment un classique. Hein, c'est que dans les couples, l'arrivée d'un enfant ou du premier enfant peut créer énormément de distance. Il y a des choses qui se rejouent de la propre enfance, du mari ou de la femme. La femme va être plutôt investie, regardée comme une mère avec un corps maternisant, et ça peut créer une distance, et parfois c'est difficile à dépasser pour l'homme tout comme pour la femme. Mais là donc, ça peut en tout cas être regardé, et c'est un travail à faire en couple pour voir un peu plus loin que ce qui bloque le désir actuellement.
D'accord, mais je vois très bien dans son regard que voilà, il me voit plus mère dans ses paroles et ses gestes, et je suis plus une maman que...
C'est ça, oui.
Voilà.
Est-ce que vous pourriez aussi être un peu plus aguicheuse avec le monde extérieur, pour qu'il vous voit désiré par d'autres hommes? Parce que ça, parfois, ça peut marcher. Vous voyez ce que je veux dire, Rose?
C'est une très bonne question, Brigitte, parce qu'en fait, du coup, j'ai eu 2 bébés, donc je me suis un petit peu laissée aller. Donc j'ai pris 20 kilos. Donc voilà. Je suis toute rondelette et donc j'ai pas confiance en moi.
Voilà, d'accord. Ouais. Alors là, ça peut aussi expliquer que lui, du coup, se sent aussi un petit peu perdu. Il a plus la même femme. Il a vraiment une mère maintenant face à lui.
Dans le fantasme par rapport à l'autre, hein, il y a une part d'imaginaire. Donc, s'il peut pas vous imaginer ou vous représenter comme une femme sexy, c'est assez difficile. Et après, il faut voir aussi dans ce qui se joue dans votre couple, votre rapport aux enfants. Est-ce que le fait qu'il y ait plus de sexualité dans votre couple, ça vous amène pas à surinvestir les enfants, l'espace familial? Et donc de plus en plus la femme se perd au regard de l'homme, et qui forcément va avoir déplacé ses désirs imaginaires sur un ailleurs. Voilà. Mais si vous en parlez, peut-être qu'il y a moyen, hein, de trouver les ingrédients pour recréer l'excitation et le désir dans le couple.
Mais vous, Rose, vous êtes bien avec ces 20 kilos en plus? Vous vous sentez bien?
Non, pas du tout.
Donc je crois que le premier pas à faire, c'est déjà d'avoir envie, vous, d'être à nouveau sexy.
Voilà.
Oui, oui, mais le fait aussi, c'est pas parce qu'on a pris 20 kilos qu'on n'a pas droit à l'amour.
Je suis d'accord. Attendez, je suis pas du tout... Non, mais ça, je suis bien d'accord. Mais si vous étiez bien dans vos 20 kilos, je vous dirais pas d'essayer de retrouver un corps un peu plus sexy. Mm-hmm. On peut être très sexy en étant très forte et très ronde. C'est pas. Mais si vous-même, vous ne vous sentez pas très bien, forcément, vous n'envoyez pas les messages qu'il faut, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, mais parce que aussi, donc il vient pas vers moi, donc.
Oui, mais c'est une réalité qu'il faut regarder en face. Hein. C'est-à-dire que pour l'homme, hein, dans sa dynamique profonde, le changement du corps peut vraiment engendrer, enfin, une dynamique complètement différente. Est-ce que pour vous, par exemple, si votre mari, je ne sais pas, a pris 20 kilos, est-ce que ça va changer votre rapport et votre désir à lui? Voilà.
Pas, je, du je, tout.
Pas du tout.
Non, mais Rose, ce que j'entends en sous-texte, et je crois qu'il faut que vous soyez plus lucide sur vous-même, c'est qu'au fond, puisqu'il ne vous désire plus, vous avez grossi, ou en tout cas, vous avez du mal à vous sentir bien dans votre corps. Et donc, vous voyez, vous êtes tous les deux en train d'avoir le même symptôme, au fond, en quelque sorte.
Si je perds du poids, il viendrait vers moi, quoi.
C'est exactement. Ça. Mais comme il ne vient pas vers vous, vous n'avez pas envie de perdre du poids, donc on ne s'en sort pas.
Voilà,
c'est ça. Mais moi, ce que j'ai peur, c'est de perdre du poids et de plus avoir envie de lui et d'aller ailleurs.
D'accord. Alors, vos kilos en trop sont le bouclier pour ne pas prendre un amant. C'est ça que vous venez de dire.
Ben,
hein.
Oui.
Ça vous fait rire en plus.
Mais en tout cas, si vous êtes retrouvez cette dynamique et que vous l'acceptez, lui va changer son regard. Hein, si voilà, hein, le fait de regarder ailleurs, hein, qui est des tiers qui peuvent être excitants, lui va vous revoir comme une femme. Alors c'est peut-être là que vous pouvez faire bouger votre couple.
Oui, non, d'accord.
Bon, okay. En tout cas,
En tout cas, je vous remercie et puis je vous tiendrai au courant.
Oui, mais allez un peu plus loin dans vos propres désirs et votre propre cheminement, Rose, parce que moi j'entends beaucoup de choses. Hein, dans pour ce que vous m'avez dit. On se retrouve dans un instant avec le Love Conseil du jour, des orgasmes à répétition.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lae fait son show, c'est le Lae Night Show.
En compagnie ce soir de Camille Emmanuel, Ornella Fleury et Franck Spengler. Alors, ce Love Conseil, on va parler des orgasmes à répétition. Alors ça fait partie aussi des grands fantasmes. La définition n'est pas forcément la même pour tous. Pour certains, des orgasmes à répétition, c'est faire l'amour plusieurs fois dans la nuit, avec donc plusieurs orgasmes. Et puis pour d'autres, c'est des orgasmes simultanés. Et là, évidemment, ça s'adresse plutôt aux femmes. Mmh. C'est très rare qu'un homme arrive à avoir plusieurs... Non, mais
je confirme.
Très, très rare, Franck.
Je confirme.
Voilà. Alors, donc, c'est plutôt la deuxième solution, donc, pour les femmes qui correspondraient à cette définition. Et en fait, il n'y a pas tant de femmes que ça qui y arrivent, parce que c'est vrai que ça reste encore une fois quelque chose qui est plutôt de l'ordre de la performance, donc il faut pas le rechercher à tout prix. En revanche, ce qui est important de comprendre, c'est qu'en fait, il faut profiter de cette vague du premier orgasme pour enchaîner avec un second, voire un troisième orgasme. Voilà. Ce qui demande évidemment beaucoup de lâcher prise de la part des femmes, et puis un petit peu d'écoute de la part de l'homme, bien sûr. Bon, silence radio. Là,
je vois pas de quoi elle parle.
Non, parce que moi je suivais la conversation, j'étais très d'accord, j'étais oui.
Ah, mais lâcher prise est fondamental.
Mais en fait, je vais vous rassurer, il y a à peine un tiers des femmes qui pourraient arriver, enfin qui sont arrivées à des orgasmes à répétition comme ça. Hein. Les femmes multi-orgasmiques sont pas si fréquentes que ça.
Ça dépend des zones qui ont été sollicitées aussi. Par exemple, je pense que si l'orgasme vient plutôt du sexe interne, s'il vient plutôt du sexe externe, pardon, et après ça devient hypersensible. Enfin, le clitoris,
c'est assez. En général, quand il y a un orgasme à répétition, c'est plutôt vaginal, évidemment.
Oui, parce que sinon, le clitoris, c'est un peu comme un sexe masculin, c'est genre.
Tu ne peux plus toucher après. Voilà. Ne touche plus à ça.
En tout cas, pas dans la minute qui suit, évidemment.
Il y a un temps quand même.
C'est en effet plutôt lorsqu'il y a une pénétration vaginale, et c'est à ce moment-là qu'il peut. Et également anal. Mmh. Il paraît que par cette zone-là aussi, ouais, on arrive assez facilement, certaines femmes, encore une fois, arrivent assez facilement à des orgasmes successifs. Voilà, alors je crois que le conseil qu'on peut donner, c'est de, encore une fois, de ne pas le rechercher à tout prix, parce que de toute façon, quand on recherche quelque chose, ça ne marche pas. En revanche, c'est surtout lorsqu'il y a donc ce sentiment de montée de jouissance et presque d'orgasme, c'est de bien rester dans la sensation et de ne pas essayer de dire ça y est, j'y suis arrivée.
C'est fini, voilà. Dodo.
Voilà. Dodo. Et qu'est-ce que ça demande pour l'homme? Évidemment, ça demande à l'homme de ne pas éjaculer, parce que sinon, après la phase réfractaire, il faut attendre et recommencer. Et à ce moment-là, on loupe le train, si je puis dire.
Il peut utiliser sa langue, ses doigts aussi, même s'il a joui, l'homme.
Oui, mais là, ce sera plus tellement une stimulation vaginale.
Il faut être bricoleur, c'est vrai.
Ou il y a le super lapin.
Voilà. Ou alors il faut être équipé, du coup, c'est ça.
Voilà, équipé, bricoleur. Ouais. Voilà.
C'est ça. Oui, il y a le super lapin aussi. Ouais.
Oui, et d'ailleurs...
C'est très amusant, d'ailleurs, de jouer à deux avec un sextoy. Ouais. C'est très, très sympa.
Oui, puis ça permet de faire une pause.
Ouais. Exactement.
Le lapin prend le relais.
Et... Ouais. et en maintenant toujours l'excitation. Même si l'érection n'est pas là, l'excitation, elle l'est.
Et c'est d'ailleurs quelque chose qu'on devrait conseiller plus souvent aux hommes qui justement ont du mal à tenir la distance ou qui sont pas, parce que c'est vrai que après tout, une fois que la femme est excitée, un godemichet fait très bien l'affaire.
Oui, c'est pas un concurrent, c'est un allié en fait.
Bien sûr.
C'est comme ça qu'il faut le prendre, absolument.
C'est un compagnon de jeu.
Tout à fait.
Mais tous les hommes n'ont pas cet avis, malheureusement.
Ah, moi j'adore. En plus, je trouve ça très marrant.
Ouais, faut pas être trop macho, quoi. C'est ça le truc.
Non, mais moi je suis dans un sex shop, je suis comme dans un magasin de jouets, quoi. Comme dans
c'est drôle.
Comme dans un bac à sable, quoi. T'essayes tout, enfin c'est rigolo, quoi. Moi j'aime bien.
Ne jamais aller au sex shop avec cette personne. Il essaye tout.
Il y a des trucs alors assez rigolos, d'autres étonnants. Moi, ma femme, la dernière fois, je vous racontais une anecdote, elle m'a acheté un masturbateur pour garçon. Bon, c'est pas mal.
Ouais.
Ils sont assez au point aujourd'hui.
Non, c'est un truc japonais. Alors c'est moche. C'est ça le problème, c'est que c'est quand
c'est un cône. Hein,
oui, c'est un cône dans lequel vous mettez la verge et puis bon, vous le.
Oui, c'est vrai que c'est bizarre.
Mais c'est pas joli, mais c'est pas mal. Hein, c'est rigolo et on s'est beaucoup marré.
Même si c'est pas ultra efficace, c'est pas toujours bien. Ça correspond pas à soi-même, à ses zones de plaisir. Ramener un sextoy, en offrir, permet de parler de sexe aussi. Mmh.
Exactement.
Pendant la soirée, après, je t'ai acheté ça, on va essayer, on va pas essayer, peu importe. Mais en tout cas, ça met le sexe sur la table.
Voilà. Non, c'est vrai.
Ça, c'est pas mal.
Voilà, c'était le Love Conseil du jour. Et puis, je vous invite également à découvrir notre Wikisex. C'est un rendez-vous sur rmc.fr et vous retrouverez toutes les réponses aux questions que vous pourriez vous poser sur votre sexualité. On va écouter Jérémy. Il était perdu dans son orientation sexuelle. Mais d'abord, on écoute Pascal qui était tombé éperdument amoureux d'une collègue de travail alors qu'il était déjà marié.
RMC. Et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes.
Bonjour Pascal.
Oui, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Brigitte.
Quel dynamisme, Pascal.
Ouais. Voilà, alors j'ai 46-47 ans. Je suis depuis l'âge de... Ça fait 21 ans que je suis avec ma concubine. Nous avons trois beaux enfants. Nous avons une vie réglée au millimètre. On ne s'engueule jamais. On vit ensemble pour notre vie commune. Et de l'autre côté, sur mon lieu de travail, je travaille avec quelqu'un depuis 15 ans qui, en fait, avait aussi une vie rangée. Et de son côté à elle, ça va plus du tout. Et en fait, on est tombés passionnément amoureux tous les deux. J'ai un cruel dilemme, là. D'un côté, j'ai quelqu'un... Je pense que je n'aime plus, hein. Il s'est transformé plus en amitié.
Alors, je sais pas si vous l'aimez plus, je dirais pas ça. Mais en tout cas, vous êtes tombé amoureux de quelqu'un d'autre. Ce qui est pas incompatible, voyez. Moi, je crois qu'il faut vraiment comprendre qu'on peut aimer quelqu'un et tomber amoureux de quelqu'un d'autre.
Voilà. Et nous avons des projets surtout avec cet ami au travail. Nous avons des projets pour voir plus loin, parce qu'elle a des enfants, j'en ai, pas se séparer de nos familles. De l'autre côté, j'ai ma femme qui m'aime encore, qui ferait tout pour moi, quoi.
Oui, mais de toute façon, Pascal, dans 6 mois, si je vous écoute, j'entends bien que vous êtes déjà en train de faire des projets avec cette femme que vous avez rencontrée, dont vous êtes fou amoureux, qui visiblement est aussi prête à tout quitter pour vous. Donc là, je crois que ce qui vous retient, c'est tout à votre honneur d'ailleurs, hein, ce serait la culpabilité de quitter femme et enfant.
Avant de vous appeler, pas mal discuté avec des divorcés, et tout le monde en revient à ce que vous dites, quoi.
Mais oui, on l'entend bien que de toute façon, à plus ou moins long terme, vous allez prendre cette décision-là ou vous allez vous arranger de manière inconsciente de vous faire prendre pour que ce soit votre femme qui prenne cette décision.
Ben donc, en fait, je me suis fait avoir sur un SMS. D'habitude, j'efface tout et samedi dernier, en fait, j'ai pas effacé le dernier SMS.
Ben oui, mais c'est humain, c'est comme ça, c'est souvent comme ça que ça se passe et vous n'échappez pas à la règle. En même temps, on peut aussi se séparer de manière noble et propre. C'est pas ça va la faire souffrir, je ne dis pas le contraire, de même que vous allez souffrir aussi parce que c'est un changement de vie brutal et puis rien ne dit que vous allez vous entendre aussi bien avec cette femme dont vous êtes amoureux et si ça se trouve dans 10 ans vous vous direz peut-être que j'ai pas fait le bon choix, mais en tout cas là aujourd'hui vous avez l'air d'être totalement décidé. Le seul conseil peut-être intelligent qu'on peut vous donner, Pascal, c'est d'aller peut-être en parler à quelqu'un, je parle à un thérapeute, pour aller au plus loin de vos retranchements, pour être sûr que vous faites le bon choix. C'est le seul conseil intelligent qu'on peut vous donner. Sinon, après tout, peut-être que vous avez une deuxième vie extraordinaire qui vous attend, et puis peut-être que votre femme, dans un an, dans 5 ans, elle rencontrera aussi un autre homme. Vous savez, aujourd'hui, c'est des choses que on entend tous les jours, et on va pas vous jeter la on va pas vous jeter l'opprobre sur vous. Voilà, je crois que c'est la seule chose qu'on peut dire. Et puis, mais encore une fois, il faut prendre un peu de temps pour prendre la bonne décision. Parfois, c'est le temps qui nous laisse, qui nous rend sûr de la décision qu'on a prise. Merci Pascal, en tout cas. Bonjour Jérémy.
Bonjour Brigitte.
Bonjour, vous avez 40 ans et vous êtes un petit peu perdu dans votre orientation sexuelle.
Tout à fait. Alors, disons que pour faire un résumé, je suis ni hétéro.
Bon, vous savez, on est rien, on n'est pas ni hétéro ni homo. Quand on vient au monde, on ne sait pas encore. Hein. Ça se dessine au fil du temps.
Disons que
vous avez commencé votre sexualité comme un hétéro, voilà. C'est
tout
ça.
À fait, tout à D'accord. fait. Mm-hmm. Tout à fait. Et sous ces trentaines d'années, ces 3-4 dernières années où j'ai eu un passage bisexuel.
D'accord, oui. Mm-hmm.
Et aujourd'hui, donc, je me retrouve. Disons qu'en plus, ce passage a été sur la fin. J'ai eu du mal à m'en ressortir, en fait, parce que ça prenait beaucoup d'ampleur sur moi.
Oui.
Et aujourd'hui, j'ai été voir quelqu'un qui m'a aidé pour redevenir donc hétéro que j'ai toujours été. Mais bon, voilà. Et à 40 ans, c'est la question que je voulais vous poser. C'est comment fait-on pour se restructurer au niveau de la gente féminine, on va dire.
Alors, j'ai un peu l'impression que la bisexualité, c'est quelque chose que vous n'assumiez pas totalement.
Au départ, non, mais après, si.
Et alors, qu'est-ce qui a posé problème? Qu'est-ce qui a été difficile pour vous?
Eh bien, disons que c'est déjà la première fois où j'ai vu, puis j'ai appris ce que j'étais vraiment, quoi. Mon attirance.
Oui, mais Jérémy, vous êtes ce que vous êtes vraiment. Vous savez, on ne sait pas, on ne le sait pas. On peut toujours être surpris jusqu'à la fin de sa vie.
Oui.
C'est peut-être sur son lit de mort qu'on pourra dire j'ai été. Non, je crois qu'il faut vraiment que vous compreniez que cette expérience dans votre vie pendant quelques années de bisexuel, ça a été une expérience. Qui peut-être peut se reproduire, c'est pas forcément définitivement terminé.
Mmh. Disons qu'aujourd'hui j'ai toujours aimé la femme. Hein. L'homme pour moi n'a été que purement sexuel.
Oui.
Voilà, maintenant, je vais pas dire que j'ai tout clôturé parce qu'il y a des choses chez moi que j'aimerais bien conserver. Ne serait-ce que d'aller faire.
Écoutez, Jérémy, j'ai vraiment le sentiment que votre thérapie vous a un petit peu induit en erreur. C'est-à-dire qu'on a l'impression que vous êtes re-rentré dans le droit chemin, en quelque sorte.
Oui, et je me sens bien comme ça, en fait, aussi.
Mais tant mieux, hein. Ce que j'ai envie, c'est que vous vous sentiez bien, que vous soyez heureux et que tout aille bien. Mais bon, vous avez eu des expériences avec des femmes depuis le début, vous connaissez les femmes.
Oui.
Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui vous êtes moins à l'aise avec une femme? Est-ce que c'est parce que vous avez l'impression qu'il lui manque quelque chose?
Eh ben, parce que bon, on dit toujours que les femmes ont un sens plus aigu que les hommes, mais qui ressentent davantage de choses. Mais en fait, est-ce que je serais encore capable de draguer une femme ou est-ce que je serais encore
Aujourd'hui, vous êtes célibataire, vous êtes seule?
Célibataire, oui.
Mm-hmm. Et donc, vous êtes un peu anxieux à l'idée de reséduire une femme et de repartir sur une histoire d'amour, c'est ça?
Oui, tout à fait, oui.
Bon, ben ça c'est peut-être simplement dû à ce que vous avez vécu avant et vous n'êtes peut-être pas encore complètement guéri et vous êtes peut-être encore dans une période de deuil, comme on dit.
Oui, ben c'est ce que je pensais aussi. Hein? Bon, je voulais avoir l'avis d'autres personnes qui sont quand même un peu plus dans le sujet, on va dire.
Écoutez, moi je pense que pour l'instant, ce qu'il faudrait que vous fassiez, c'est repartir à la conquête des femmes, vivre des expériences, des aventures, et puis voir un peu comment ça va évoluer dans votre tête.
D'accord.
Ne cherchez pas pour l'instant, entre guillemets, l'âme sœur, ne cherchez pas la compagne, retrouvez plutôt du plaisir à séduire, du plaisir à retrouver d'autres corps, et amusez-vous.
D'accord.
Je crois que c'est ce que vous avez besoin là pour l'instant, c'est de retourner dans le grand bain, et puis vous allez voir comment vous évoluez.
D'accord.
Et puis si vous avez tout d'un coup envie à nouveau d'une expérience homo, ne vous en privez pas, c'est pas grave.
Oui, parce que bon, je suis adepte aussi de plusieurs magazines et sur le sujet, il est vrai que différents hétéros ont des rapports de une déflation entre hétéros, c'est pas forcément pour autant qu'ils soient homo.
Mais oui, moi je pense, si vous voulez que je vous définisse, puisque c'est un peu ça dont vous avez besoin, Jérémy, je pense que vous êtes comme pas mal d'hommes d'ailleurs, hein, en effet hétéros, c'est-à-dire que vous avez envie de vivre une histoire de couple avec une femme, mais vous aimez bien de temps en temps des expériences sexuelles avec des hommes. Voilà, je crois que c'est comme ça qu'on pourrait vous définir.
D'accord.
Voilà. Merci, Jérémy.
Eh bien, écoutez, merci.
On se retrouve dans un instant pour notre lecture coquine de ce soir et on va écouter Saad aujourd'hui.
RMC, c'est le Lae Night Show. RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Nous allons écouter maintenant un petit florilège de vos plus beaux témoignages avec Patricia qui parle de son fils qui fumait du cannabis, Amélie qui ne supportait plus les infidélités de son partenaire et puis Françoise qui n'arrivait pas à atteindre l'orgasme vaginaux. Et nous écoutons tout cela. Françoise Saint-Père était avec moi.
RMC, tout ce que les femmes se disent entre elles, c'est dans le Lahaie Night Show.
Bonjour Brigitte, bonjour Françoise.
Bonjour Françoise. Donc vous avez du mal aujourd'hui à avoir des orgasmes vaginaux ?
Oui, c'est-à-dire que j'écoute souvent votre émission, même tous les jours.
Ah, ça c'est bien.
Ouais, et justement, je me suis décidée à vous téléphoner parce que j'étais mariée la première fois à 23 ans avec un homme et je n'ai jamais eu d'orgasme avec cet homme-là. Donc j'ai divorcé, pour différentes raisons. Là, je suis en instant de divorce, j'ai été mariée encore 18 ans avec un autre. Je suis en instant de divorce, mon divorce est prononcé le 15 avril. Et par contre, avec lui, j'étais toujours à son écoute, c'est des caresses vis-à-vis de lui, j'avais des orgasmes. Mais maintenant, je suis avec un compagnon depuis 4 mois, et oui. On s'aime énormément, et je n'arrive plus. Il me dit justement, t'as toujours été trop à l'écoute de l'autre. Il me fait des caresses, il est très à mon écoute et tout, et je n'arrive pas à avoir d'orgasme du tout.
Oui, mais en même temps, Françoise, on voit qu'avec votre amant précédent, qui était en plus votre mari, vous aviez des orgasmes. Donc là, il y a peut-être un temps d'adaptation qui est nécessaire.
Oui, 4 mois, c'est court pour se connaître bien. Et ah puis, vous avez parlé d'orgasmes vaginaux, mais est-ce que vous avez des orgasmes clitoridiens?
Moi, je pensais, il me dit que non. Et mon compagnon, il me dit non, c'est pas d'orgasme clitoridien. C'est-à-dire, je sens un petit quelque chose, mais c'est tout.
Françoise, oui. C'est vous qui pouvez dire si vous avez des orgasmes, c'est pas lui.
Ah bon, mais je sens quelque chose, mais je sais pas du tout quelle est la sensation d'un orgasme clitoridien par rapport à vaginal. Pour moi, je me sens frustrée.
Oui, mais de toute façon, ce que j'entends quand même quand un homme prétend savoir si une femme a des orgasmes ou pas, je suis toujours un petit peu inquiète sur la manière dont il fait l'amour.
Oui, ça me laisse un peu sceptique, parce que c'est quand même vous qui devez le savoir en premier.
Ben oui, moi c'est la première fois que je ressens ça, si vous voulez.
Donc ça veut dire que peut-être que vous avez des orgasmes clitoridiens, mais qui ne sont peut-être pas les mêmes que ceux qu'avait sa partenaire avant vous, donc c'est pour ça qu'il est perdu. Et qui considère que vous n'en avez pas. En revanche, sur le plan vaginal, quelle est la différence? Est-ce qu'il a un sexe plus petit? Est-ce qu'il fait l'amour pas assez longtemps? Enfin, vous voyez, il y a peut-être une raison mécanique, tout simplement.
Ben, c'est-à-dire que j'ai beaucoup plus de... on fait l'amour, si, mais on a beaucoup plus de caresses avant. C'est beaucoup plus de préliminaires de mon côté que je connaissais pas ça avant.
D'accord, mais ça c'est plutôt bien. Et quand il vous fait l'amour, est-ce qu'il vous fait l'amour suffisamment longtemps?
Oh ben oui, il arrête, il reprend. Qu'avec mon ex-mari, j'étais plutôt, c'était tac 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 et puis voilà, point, c'était fini.
Et vous aviez un orgasme avec tac 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 tac.
Oui.
Ah d'accord.
Oui, et que là c'est beaucoup plus doux.
Essayez un jour de faire tac 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 avec celui-là.
Oui.
Comme ça, vous verrez si c'est ça votre fonctionnement. Parce que vous savez, il y a 1000 femmes et il y a 1000 modes d'emploi. Peut-être que vous, votre orgasme vaginal, vous l'avez de manière assez soudaine.
Quand on va très vite.
Oui, mais ça, c'est possible.
Il y a des rythmes différents, oui, tout à fait.
Ah oui, d'accord, oui. Mm-hmm. Parce que moi, j'ai pris justement rendez-vous avec un sexologue pour voir si c'est pas dans ma tête, si j'ai pas un blocage quelque part.
Vous avez l'air finalement d'être assez facile à faire jouir, puisqu'il faut faire que tac, 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 tac.
Oui, mais aussi. Ça ne plaît pas toujours au compagnon non plus, s'il faut aller trop vite.
Il peut très bien aller très vite et puis s'occuper de vous après.
Il
faut cesser de penser qu'on fait d'abord les préliminaires et ensuite tac, 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 tac.
Ah oui.
Vous pourriez essayer aussi avec un vibromasseur, en faisant tac, tac, tac assez vite,
mais
et voir si vous jouissez.
J'ai essayé, mais ça ne me plaît pas du tout. Hein. Même quand, par exemple, moi, je me masturbe moi-même, j'ai du mal quand même à trouver une jouissance. Hein.
Oui, mais là, sincèrement, Françoise, reprenez le mode d'emploi qui fonctionnait quand vous étiez avec votre ex.
Oui, d'accord.
Et essayez de voir si ça marche comme ça. Si ça marche comme ça, vous continuez comme ça, et puis vous faites les préliminaires d'autres moments.
Ou des caresses après. C'est très bon aussi.
Oui, d'accord. Oui, il faut que je vois, parce que je suis quand même frustrée, moi, dans ce domaine-là.
Bien sûr.
Et puis lui aussi, quand même, de pas... Parce qu'il me dit, ça ne fait pas d'effet. Mais si, au contraire, c'est vrai, mais quand il y a la pénétration et qu'il jouit, je jouis, mais très très faiblement par rapport à avant.
C'est ça. Donc vous avez besoin de sans doute de quelque chose de rapide et tout de suite.
Un peu plus brutal peut-être. Oui. Enfin,
et ben bah, écoutez, ce soir vous le coincez dans le couloir et hop, top, 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 top.
Voilà, et puis vous lui dites prends-moi vite très fort, ça va le valoriser, il sera très content.
Oui, peut-être, d'accord.
Merci Françoise en tout cas.
Bon, merci beaucoup
de votre appel. Amélie, vous êtes avec nous sur RMC. Bonjour.
Oui, bonjour Brigitte. Bonjour à votre invitée Françoise. Voilà, je vous expose un petit peu mon problème. Donc c'est un problème d'infidélité de la part de mon mari. Donc c'était une histoire qui dure environ depuis 2001. Mmh. Donc il a rencontré cette jeune femme dans un endroit où il travaillait. L'histoire est la suivante, c'est qu'il a des liaisons avec elle qui va durer un an et demi. Je le découvre, donc il va arrêter pendant un an et demi, deux ans. Suite à ça, je l'ai pardonné la première fois. Elle revient, soi-disant que c'est elle qui revient toujours vers lui. Dès qu'elle revient, il recommence. Donc, 3-4 ans après, il recommence. Ça dure encore un an et demi. Je le sais. Donc, ça casse. Ça va casser pendant encore un an et demi, deux ans. J'ai encore pardonné. Et là, encore hier, je l'ai pris en flagrant délit. Et ça avait à nouveau recommencé depuis un an et demi. Et là, franchement, je ne sais plus quoi faire. Il me dit qu'il m'aime. Il me dit que je suis la femme de sa vie, que c'est simplement une histoire de sexe, qu'il ne fera jamais sa vie avec elle. Mais moi, je suis épuisée, je ne sais plus. Je ne sais plus, j'ai passé deux fois, mais là, la troisième, je ne sais plus quoi faire.
Je pense quand même qu'il est certain que ça n'est pas qu'une histoire de sexe. Sinon, après un an et demi sans la voir, il l'aurait oublié. Donc il y a forcément aussi du sentiment. De toute façon, quand depuis 10 ans on connaît une femme, il y a quand même du sentiment. Mais votre mari est tout à fait sincère aussi. Simplement, il vous aime toutes les deux. Et ça, c'est quand même extrêmement fréquent.
Oui, mais comment faire? Moi, je l'aime. C'est vrai que je l'aime. Et c'est pour ça que je vous appelle, parce que je ne sais vraiment pas quoi faire. Au fond, mon cœur me dit, reste avec lui. Essaie de lui repardonner une fois pour voir ce qu'il veut dire, parce qu'il me dit qu'il ne recommencerait pas. Mais je doute. Et j'ai une autre voix en moi qui me dit, mais tu seras toujours, pas heureuse. Donc, je ne sais pas.
De toute façon, Amélie, les événements parlent pour eux. On voit bien que quand il vous dit, j'arrête, bon, vous savez très bien qu'il va arrêter peut-être un petit moment et ça va reprendre. Mm-hmm. Donc, il faut maintenant être clair. Est-ce que vous avez envie? Est-ce que votre amour pour lui vous permet d'être tolérante et d'accepter cette situation, quitte à ce que vous aussi vous ayez un peu plus d'indépendance? Ou est-ce que vous pensez que ça nécessite de poser un ultimatum? Mais quand on pose un ultimatum, on peut le perdre.
Oui, mais de toute manière, vous êtes comme moi, vous êtes persuadé que ça va recommencer.
Ah oui. Oui, bah, si depuis 10 ans il recommence.
Oui, non, mais enfin, on peut jamais être sûr à 100%.
Non, pas sûr, mais enfin, il y a quand même de grandes chances, puisque chaque fois qu'il la revoit, ça, il retombe. C'est quand même qu'ils ont une vraie attirance l'un pour l'autre. Hein.
Oui, dès qu'elle appelle, il y retourne. Il hésite tout le temps, mais qu'il finit à nouveau par y tomber.
En même temps, c'est quand même avec vous qu'il est, avec vous qui reste depuis 10 ans. Si c'était vraiment une histoire si forte et si importante, je pense qu'il aurait demandé le divorce. Hein, donc on peut pas non plus.
Oui, c'est de toute façon la personne avec qui on vit, avec qui on construit un projet de vie, c'est en principe la principale. Hein, donc vous êtes certainement, comme il vous le dit, la femme de sa vie.
Oui.
Mais il est quand même bon, mais il en aime une autre qui ne remplit pas du tout le même rôle que vous. C'est-à-dire que vous n'êtes pas réellement rival parce que vous ne remplissez pas le même rôle. Vous êtes sur deux registres différents.
Écoutez Amélie, moi je crois que le conseil le plus intelligent qu'on peut vous donner, c'est que vous alliez tous les deux régler ce problème face à un thérapeute.
Vous me conseillez d'aller voir un thérapeute?
À tous les deux, hein, pas simplement vous. Hein.
Il faut que vous thérapeute de couple, c'est ça?
Oui, absolument. Que vous y alliez tous les deux, que vous posiez le pacte sur la table du thérapeute et que vous signiez ensemble le pacte du futur. De manière à ce que les choses soient dites avec un tiers, avec une sorte de témoin. Parce que là, on voit bien que ce que vous décidez ensemble, finalement, n'a pas beaucoup de poids et ça ne tient pas la route. Donc, je crois qu'il faut faire un vrai bilan de votre couple face à quelqu'un qui va poser les bonnes questions. Vous serez l'un devant l'autre. Vous prendrez tous les deux les bons engagements. Et je pense qu'il n'y a que cette solution-là pour pouvoir repartir ensemble.
Et puis, il faut surtout, aussi vous interroger, vous, sur une question essentielle. C'est est-ce que c'est plus douloureux pour moi l'idée qu'il ait quelqu'un d'autre dans sa vie avec des possibilités d'ailleurs de régler ça et de le comment de le codifier ensemble dans un pacte, ou qu'il m'abandonne complètement si brusquement il s'apercevait qu'il n'est pas capable de renoncer à cette femme. Donc il faut que vous voyez vraiment vous quels sont vos vrais désirs.
Mais ça va se révéler face à un thérapeute, parce que le thérapeute vous poussera l'un et l'autre dans vos retranchements. Vous comprenez, Amélie?
Oui, parce que si je ne fais rien, ça va recommencer, ça va se calmer peut-être pendant un an et demi.
On peut le craindre. En tout cas, quand vous discutez ensemble, les choses ne sont pas suffisamment claires et définitives, puisque ça dérape à nouveau. Donc, il faut peut-être que quelqu'un de d'extérieur pose les vraies limites à l'un et à l'autre, et que vous repartiez sur de bonnes bases.
Mais d'après vous, pourquoi ça dérape à nouveau? Est-ce qu'il aurait vraiment un manque d'autres choses, ou parce qu'il y a...
Vous savez, Amélie, c'est peut-être une femme qui est manipulatrice. C'est peut-être parce que elle lui fait un chantage, je ne sais quoi. C'est peut-être parce que votre mari sexuellement de temps en temps a envie d'autre chose. J'en sais rien. Je peux pas vous répondre à sa place. C'est lui qui peut vous répondre. C'est pas moi. Mais je vous donne plusieurs pistes, hein, tout simplement.
Mais de toute manière, il m'a dit que lui donne ce que moi je lui donnais pas. Voilà.
De toute façon, vous êtes différente de cette femme, forcément, puisque c'est quand même avec vous qu'il a choisi de vivre. Et donc, ça n'est pas forcément pour des raisons, malsaines, malveillantes envers vous. C'est parce que, effectivement, elle doit combler un manque, mais quitte un manque à lui, non pas un manque de vous. C'est pas vous qui manquez de quelque chose, c'est lui qui manque de quelque chose.
Et ce qui est le plus terrible dans cette histoire, c'est quand je vois il y a de ça 4 ans, quand il avait arrêté, il m'avait promis un tas de choses. Il m'avait, c'était à peine, il ne décrochait pas la lune pour moi, et là je tombe à des nues quand je m'aperçois que ça recommence, quoi. Donc est-ce que la confiance reviendra? Je me mets en question, je sais pas.
Amélie, la confiance peut revenir si en effet le contrat est clair, différent et clair surtout, vous voyez. C'est pour ça que je crois qu'il faut vraiment vous faire aider par quelqu'un.
On ne pourra pas s'en sortir toute seule de toute manière.
Ça me semble difficile. Ou alors, il faudrait être un peu plus au courant de qui est cette femme. Si, peut-être, c'est possible hein, qu'elle soit manipulatrice. Elles sont souvent des amantes qui sont assez exceptionnelles et qui se sont prêtes à tout pour remettre l'homme dans leurs griffes. Je pense que cette piste-là est possible. Mais donc il a besoin d'aide pour s'en sortir, voyez.
Même quand il est dans une période où il ne la voit pas, pour vous, maintenant, vous n'avez plus aucune sécurité affective, puisque même quand il ne la voit pas, vous vous dites quand est-ce qu'il risque pas de retomber avec elle. Donc ça devient invivable.
Tout à fait. Et je pense que c'est une femme assez manipulatrice, hein, parce que bon, malheureusement, son mari s'est suicidé, donc c'est qu'il y a d'avoir des problèmes déjà dans leur couple.
Allez ensemble. Je crois que c'est vraiment le conseil le plus juste qu'on peut vous donner. Continuons avec Patricia. Bonjour Patricia.
Bonjour Brigitte.
Bonjour. Alors, vous avez un fils de 20 ans qui est un petit peu cloîtré dans sa chambre à fumer du cannabis.
Oui, alors voilà, en fait, il ne fume pas du cannabis à la maison, enfin, en quelque sorte. Bon, il en fume pratiquement tous les jours, hein, à l'extérieur, et effectivement, de temps à autre à la maison. Mais le pire, si vous voulez, c'est qu'on sent chez lui une démotivation complète vis-à-vis de ses études. C'est un gamin qui est toujours en train de dormir. Il est lymphatique. Bon, on a l'impression que plus rien n'intéresse, hein. Vraiment plus rien n'intéresse. J'ai été convoquée dans son école, parce qu'il fait une école supérieure, et à l'école, ils m'ont dit s'il ne s'accroche pas, il ne pourra pas continuer. Voilà. Donc je ne sais pas exactement comment je peux aborder ce problème, parce que c'est un gamin qui est quand même intelligent, qui a la capacité de faire quelque chose, mais j'ai l'impression qu'il est pollué par l'extérieur, quoi, hein, par les copains.
Patricia, c'est quand même relativement fréquent et c'est pas forcément pour ça qu'il va rater sa vie. Je crois qu'il faut déjà vous désangoisser. En même temps, il faut essayer de réagir. Vous vous entendez bien avec lui? Il est pas en conflit avec vous?
Alors avec moi-même, je vais dire que non, mais par rapport à mon mari qui est son beau-père, oui, c'est perpétuel. Il refuse toute autorité de mon mari, hein. Et ça depuis maintenant 4-5 ans.
Non, mais je crois que si vous êtes bien avec lui, vous lui en parlez, vous allez ensemble faire une estimation et vous passez un peu la main, parce que c'est compliqué pour vous de toute façon. Bon, le beau-père, on n'en parle même pas, c'est pas lui qui qui va intervenir.
C'est compliqué,
et pour vous, c'est compliqué. Donc, je crois qu'il faut vraiment ne pas hésiter à passer la main. Vous l'emmenez faire une estimation auprès de quelqu'un. Et puis voilà. Je crois que c'est.
Et quand vous dites quelqu'un, c'est qui? C'est un thérapeute?
Oui, bien sûr, vous allez vous renseigner, par exemple, si vous avez un CHU à côté de chez vous. Il y a maintenant, vous savez, c'est de plus en plus, c'est de plus en plus connu maintenant, hein, les questions d'addiction, les questions vous renseignez où est-ce que vous avez un centre qui peut vous recevoir.
Oui, tout à fait. Mais si mon fils ne souhaite pas venir avec moi ou même y aller seul. Comment peut-on faire? Parce qu'il n'est absolument pas conscient, en fait, des dégâts que ça peut faire de toute façon sur lui-même, hein, sur du court terme ou du long terme. Je sais pas.
Mais vous savez, Patricia, quand on avait son âge, on n'est absolument pas conscient. On a l'impression qu'on a l'éternité devant nous, qu'on est en pleine santé, que la maladie ne va pas nous toucher. Enfin, c'est normal qu'il ne soit pas conscient. Et je vous dis encore une fois, si ça se trouve dans 3 ans, il sera super brillant. Ce qui est dommage, c'est que il peut perdre une année ou deux, et c'est pour ça qu'il faut essayer de l'aider et réagir. Mais ne lui présentez pas comme quelque chose de dramatique. Voyez, essayez d'être assez cool, ouverte, et voilà tout. Puis prenez le rendez-vous et dites j'ai pris un rendez-vous, on y va, et puis voilà tout.
D'accord.
Essayez vraiment de dédramatiser la situation. Ce sera le meilleur moyen de pouvoir l'amener sans qu'il y ait de résistance. Parce que sinon, il va évidemment se braquer contre vous, et c'est pas le but.
RMC, quand Brigitte Lahaie fait son show, c'est le Lahaie Night Show.
Et on va se quitter ce soir avec la philosophie dans le boudoir. Mais avant, je vais remercier Camille Emmanuel d'être revenue nous rejoindre ce soir. Merci beaucoup.
Merci à vous.
Et je rappelle votre livre « Sex Powerment, le sexe libère la femme et l'homme ». C'est aux éditions Anne Carrière. Franck Spengler, vous êtes éditeur chez Blanche. Et votre dernier livre que vous aimez bien, c'est « Virtuose » de Marie Force. Alors, Ornella Fleury, je rappelle qu'on peut vous retrouver sur dans votre one man show pendant tout le mois d'août au point virgule du jeudi au samedi à 21h15.
Exactement.
Alors vous avez gentiment accepté de lire cet extrait de la philosophie dans le boudoir de Sade. Alors Sade, je crois que tout le monde connaît, mais tout le monde n'a peut-être, enfin vous avez forcément lu Franck Spengler, ça c'est, je m'en doute. Point. Sade, c'est vrai qu'il a il a à la fois on adore ou on déteste. Hein. Alors, je trouve que la philosophie dans le boudoir, c'est peut-être le livre le plus abordable pour tous.
Oui, c'est celui avec Justine qui est le plus abordable. Les autres, il est vraiment dans une démesure volontaire pour
une escalade.
Voilà, bousculer son époque.
Voilà. Donc Camille Emmanuel.
Non, mais je suis d'accord. C'est enfin, je conseille de lire Sade parce que ça fait partie vraiment du monument de la littérature pornographique française, avec Apollinaire, avec d'autres auteurs. Enfin, on a la chance d'avoir ce patrimoine-là en France. Mais commencer par ça, parce que c'est vrai que si il y a d'autres textes qui peuvent vraiment rebuter, et pas forcément, par leur violence, pas forcément sexuelle, même leur violence tout court, par rapport à des choses, par rapport au corps, qui sont extrêmement dures, et du coup, on peut très vite refermer. C'est dommage, quoi. Donc là, c'est un bon conseil.
Voilà, et puis moi, ce que j'aime chez Sade, et c'est Jean-Jacques Pauvert qui me l'avait bien fait découvrir, c'est justement cette philosophie de liberté absolue qui est démontrée dans de nombreux extraits de ses livres, hein, bien sûr. C'est à vous, Ornella Fleury. Vous connaissiez Sade?
Alors, pas du tout. Alors moi, sachez que je n'ai jamais lu de livre, ni érotique, ni rien.
C'est une double découverte. Alors, vous allez le découvrir tout en le lisant.
Alors là, c'est incroyable. Alors, je vous fais une petite... Ok. Alors, donc vous connaissez les personnages ou pas? Vous avez tout le monde? On a Dolmancé et Eugénie.
Voilà.
D'accord? Bon. Alors, Dolmancé. Non, pas vraiment. Attendez-moi. Il faut d'abord que j'encule ta sœur, puisqu'Augustin me l'insinue. Ensuite, je vous marierai. Ce sont mes doigts qui doivent vous lier. Ne manquons à aucun des principes. Songeons qu'une écolière nous regarde et que nous lui devons des leçons exactes. Eugénie... Venez me branler pendant que je détermine l'énorme engin de ce mauvais sujet. Soutenez l'érection de mon vie en le polluant avec légèreté sur vos fesses. Elle exécute.
Eugénie. Fais-je bien ? Dolman C. Il y a toujours trop de mollesse dans vos mouvements. Serrez beaucoup plus le vis que vous branlez. Si la masturbation n'est agréable... C'est très drôle. Si la masturbation... Attendez. N'est agréable...
On a perdu le fil.
Ouais. Quand ce qu'elle comprime davantage que la jouissance, il faut donc que la main qui y coopère devienne pour l'engin qu'elle travaille un local infiniment plus étroit qu'aucune autre partie du corps. Mieux. C'est mieux ça. Écartez la dernière un peu plus afin qu'à chaque secousse, la tête de mon vie touche au trou de votre cul. Oui, c'est ça. Branle ta sœur en attendant, chevalier. Nous sommes à toi dans la minute. Ah bon, voilà mon homme qui bande. Allons, préparez-vous, madame. Ouvrez ce cul sublime à mon ardeur impure. Guide le dard. Eugénie, il faut que ce soit ta main qui le conduise sur la brèche. Il faut que ce soit elle qui le fasse pénétrer. Dès qu'il sera dedans, tu t'empâteras de celui d'Augustin, dont tu rempliras mes entrailles. Ce sont là des devoirs de novice. Il y a de l'instruction à recevoir à tout cela. Voilà pourquoi je te le fais faire. Ah, nous avons un autre personnage. Madame de Saint-Ange.
Mais ouais, vous n'allez pas nous lire tout le livre.
Mais on m'a laissé la flèche ici.
Ah, pardon.
Mes fesses sont-elles à toi, Dolmancé ? Ah, mon ange, si tu savais combien je te désire, combien il y a de temps que je veux être enculée par un bougre.
Eh ben, c'est très bien.
Voilà. Ouais.
Bravo, on est là. Et ben, finalement, hein, ce que vous dites sur scène, c'est très soft. Hein.
Ouais, ah oui, finalement, ouais, c'est soft. En fait, c'est soft parce que c'est moins sérieux. C'est ça.
Bravo, en tout cas, bravo. Merci à tous. Et demain, on sera avec Trinidad, Fatima Idboudouya et Christophe Médici. Et on verra justement quels sont les méfaits de la pornographie aujourd'hui. Et quelle serait la bonne éducation sexuelle? Peut-être pas de lire ça. Je suis d'accord.
RMC. Et dire que vous pensiez tout savoir sur les femmes.